Seigneur, nous sommes très honorés de pouvoir avoir ce moment avec toi, d'impacter, de laisser impacter nos vies par la parole et la révélation. Nous voulons marcher dans cette dynamisme, nous voulons marcher dans cette onction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis très, très honoré de pouvoir vous apporter ce matin encore la parole. Et je suis excité de savoir que Dieu a un plan pour notre vie. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dis à ton voisin, le Père a un plan pour ma vie. Je suis né pour régner. Je suis né pour vivre. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Ok. Éphésiens 2. Ce que nous sommes, nous le sommes. Amen. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. J'aime cette version. Il dit, c'est qu'il n'a pas la même version, ne vous en faites pas. C'est que votre version dit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voilà, ma version dit, ce que nous sommes. Donc nous sommes. Dis, je suis un enfant de Dieu. Parce que la Bible est claire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de qui des. Et j'aime bien la Bible. La Bible n'a pas dit il a, elle a. On va comprendre, elle a. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est à moi d'accepter c'est celui ou celle que je suis. La Bible dit elle a. Elle a, c'est pas il, elle. C'est pas il, elle. Elle sont féminines. Donc Dieu n'est pas féminin. Dieu n'est pas une femme. Parce que si c'est un père ne peut pas être elle. Ok? Qui comprend? Dieu, c'est le masculin. Donc Dieu n'est pas une femme. Voilà pourquoi les hommes, vous ne devez pas laisser aux femmes de prendre les choses en main. Dites amen, frère. Il faut que nous soyons des hommes, pas des omelettes. Amen, dites frère. C'est il, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok, nous allons voir elle qui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit maintenant, ce que nous sommes, nous ne le sommes pas parce que nous voulons, nous le devons à Dieu. Donc Dieu a fait de nous. Nous ne sommes pas faits nous-mêmes. Dieu a fait de nous. Dit Dieu a fait de moi son enfant. Mais étant son enfant, je suis appelé à se développer, à grandir. Un enfant qui reste toujours au niveau de l'enfance ne peut pas accéder ou ne peut pas arriver à la dimension de ce pourquoi Dieu l'a appelé. Je suis très, 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 très content de savoir que ce matin, chaque personne est appelée à être impactée par la parole de Dieu et à être transformée, changée, avoir une direction précise. Et sa vie doit complètement être transformée. Mis sens d'ici, dessous. Donc Dieu est en train de se frayer un chemin pour apporter ce dont tu as besoin. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes très contents, Père, de savoir que tu as un plan pour nos vies. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes choses. Donc Dieu n'a pas préparé des mauvaises, des bonnes choses. Répète après moi, des bonnes choses. Enfin que je les pratique. Donc Dieu l'a préparé. Si tu as commis des mauvaises choses, sachez que ces choses étaient en dehors du plan de Dieu. Aujourd'hui, il est possible, il est capable pour vous de pouvoir revenir sur le droit chemin et de marcher dans la direction et dans la directive qui est celle qui est la nôtre, afin que nous puissions vivre dans la dimension que Dieu a préparée. Maintenant, nous ne pouvons pas accomplir ces bonnes œuvres si nous ne sommes pas connectés avec elle. Elle a donné le pouvoir. Elle a. Il est au ciel, mais elle est avec nous. Donc, il s'est manifesté en elle. Quand il voulait se révéler, il a pris la forme d'elle. Ok, la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole a été avec Dieu, et la parole était Dieu. Quand vous lisez ces versets, vous voyez qu'il y a tout un processus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Plus loin, la Bible dit, la parole s'est faite chair. Elle s'est manifestée. Et toutes choses ont été créées en elle. Et par, et pour lui, par lui. Donc, en elle était la vie. Et la vie a été la lumière des hommes. La vie s'est manifestée auprès des siens. Donc, nous voyons que la parole de Dieu a une importance profonde et glorieuse dans notre vie. Si nous sommes déconnectés de la parole de Dieu, si nous sommes déconnectés d'elle, automatiquement nous sommes déconnectés de lui. Parce qu'elle représente lui. On ne peut pas comprendre lui si on ne comprend pas elle. Si on n'est pas avec elle, on ne peut pas être avec lui. Voilà pourquoi la Bible, c'est là où la Bible dit, les mariages c'est un mystère. La Bible dit, l'homme et la femme deviendra une seule chair. Donc un homme qui ne sait pas honorer sa femme, c'est un homme qui ne sait pas s'honorer. Coucou. Parce qu'elle est sortie de lui. Comme elle est sortie de lui, elle est sortie de lui aussi. Ta femme est sortie de toi. Elle est sortie de ta côte. Donc, si tu n'apprécies pas ta femme, tu ne t'apprécies pas. Donc, personne ne peut t'apprécier si tu n'apprécies pas ta femme. Alléluia. Dites amen, les frères, les frérots. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais je, Seigneur, fasse que je reste là. Je prends mes notes. Alors, nous avons vu qu'il y a des dimensions. Et hier, nous avons vu, et hier, avant-hier, excusez-moi, nous avons vu que, je vais descendre. Avant-hier, nous avons vu qu'il y a des étapes. Il y a une étape qu'on appelle la sagesse de Dieu, où Dieu se manifeste pour nous amener à la vraie vie, à la vraie communion. Ça s'appelle la sagesse, la façon de faire de Dieu. Et après la sagesse, on a vu qu'il y a des épreuves. Les épreuves ne viennent pas pour nous détruire, mais pour nous faire passer à une dimension supérieure. Et après les épreuves, on a vu les épreuves font naître ce qu'on appelle la patience. Pourquoi la patience? Parce qu'il faut, il te faut la patience pour passer une partie ou une étape de ta vie qu'on appelle l'étape où tu es appelé à être persécuté. Répète après moi, la persécution. Qui croit que la persécution fait partie de l'eau des chrétiens? Tu ne peux pas être chrétien et refuser la persécution. Ok? Quel verset, Josué, qu'on avait donné vendredi concernant la persécution dans le livre de combien? Non. Non. Timothée? 2 Timothée quoi? 3? De Timothée 3, verset 12. Non, 16 à 17, c'est pas ça. 16 à 17, il dit, toute écriture de Dieu est ainsi. Oh, vous n'avez pas... C'est verset 12. Ok, lisons tous ensemble. Qui c'est qui n'a pas une Bible? Qui c'est qui n'a pas une Bible? Levez la main. À la fin, allez à la librairie, nous vendons des Bibles. Que Dieu vous bénisse. De Timothée 3, verset 12. Alors, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront... Vous avez trouvé ça? Je continue parce que je ne peux plus revenir. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront. Vous avez trouvé ça? De Timothée, c'est par là. Il faut pas à Petit Canal, il faut retourner à Guayave. C'est là. Voilà. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont leur dit tel chapitre. Au lieu d'aller là-bas, ils vont à l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament, ok? 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Vous avez trouvé, madame? Oh, tous. Oh, pas deux, pas une. Tous. Tous ceux. Vous avez trouvé? Non, vous venez d'arriver. C'est bien passé les vacances? Trop bien, c'est bien. Soyez la bienvenue. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement. C'est par là, je vais vous aider. C'est par là. Voilà, c'est là, c'est vraiment là, là. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront. Donc la persécution fait partie de notre vie. Amen, dites amen. Dites amen. Donc si tu ne veux pas être persécuté, il ne faut plus continuer à venir à l'église ni à prier. Arrête. Parce que la persécution amène la stabilité dans ta vie. La persécution amène la direction. La persécution amène que tu sois équilibré dans ta vie. La persécution amène ce qu'on appelle la constance. Pour que tu deviennes constant dans la façon de faire que Dieu t'a donnée, il faut que tu sois persécuté. La persécution t'amène à voir une ligne droite, à comprendre et à reconnaître que ce que Dieu m'a appelé à faire, c'est ce que je suis appelé à faire, pas une autre personne. La persécution te permet de dépendre complètement, totalement et pleinement au Seigneur. La persécution te permet d'enlever tous les appuis sur lesquels tu l'appuies, parce que dans la persécution, tu te sens seul. Tu te sens rejeté par tout le monde, humilié, écrasé. Donc, tu es appelé à t'en sortir ou tu t'en sortiras plus jamais. La persécution forge ta personnalité. Dites amen. Si tu refuses la persécution, tu refuses la formation. Qui comprend? Tous ceux qui veulent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et pour rapidement clore cette partie, nous allons rapidement dans le livre de Marc, combien? 10, 20. 10 combien? 28. Allez, allons-y. Dans Marc 10, 28. Dans Marc 10, 28, la Bible dit quoi, Josie? Pierre s'est mis à lui dire, Seigneur, et nous qui avons tout quitté, aujourd'hui nous avons tout quitté. Vous savez, quand vous venez dans le Seigneur, on vous dit de quitter votre copain, de quitter votre copine, de quitter votre amant, de quitter votre pourvoyeur, de quitter le monsieur qui venait toujours avec une belle voiture et qui vous apportait des courses. On vous dit de quitter ces messieurs-là. Ne me regardez pas comme ça, c'est ce qu'on nous a dit. On nous dit de quitter cette femme-là, on nous dit de changer la vie, on nous dit toutes ces choses-là. Alors que nous savons qu'à la fin du mois, comme c'est la fin du mois, tu sais que le messager va venir avec les courses, il va venir avec la voiture, vous irez ce soir ou chaque soir au restaurant. Mais on te dit tout cela est fini maintenant. Mais tu vois. Et tu te rends compte que tu dois changer de vie, c'est pas facile. Mais il faut maintenant que tu vives la vie de Dieu. Pierre maintenant dit, oh, bouge à moi. Vigne la vie. Il dit, nous qui babillons ensemble. Il dit, mais comment ça se fait que toi tu as de tout laisser tomber maintenant? Quel genre de discours tu nous tiens? Nous avons tout quitté. Et dis-nous, donne-nous la réponse. Lisez tous ensemble. À haute voix. Nous avons tout quitté. Et nous avons passé. Moi, j'ai tout laissé. Je viens à l'église. OK. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Allez-y. Jésus répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, où son père et ses enfants, où c'est, ne reçoivent combien? Ah, ils ne reçoivent comment? Vous avez manqué une place pour dire alléluia et amen. Dieu vous promet que vous allez recevoir au... Qui croit cette parole? Mais il y a que la vie, il y a la virgule, c'est pas fini. La phrase n'est pas finie, on la continue, ok? Présentement où? Pas au ciel. Beaucoup de gens disent, oui, pasteur, c'est pas grave, nous irons. Moi, je ne vais pas attendre au ciel. La Bible me dit, je vais recevoir présentement dans ces siècles, veut dire quoi? Ces siècles veut dire la génération dans laquelle nous vivons. Donc, dans cette génération, Dieu veut que tu reçoives le centuple de ce que tu as tout laissé tomber. Donc, si tu as laissé tomber un monsieur, tu auras un époux. C'est différent. Vous avez compris la question? Vous avez compris la différence entre un monsieur, monsieur? Un monsieur et un époux. Si vous avez laissé tomber madame là, vous aurez une épouse. Parce que madame là, c'est madame là. C'est un exemple. Ok, j'ai encore le temps. Alors, il dit, vous recevez au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Avec quoi? Avec quoi? Ça rime avec quoi? Mais vous ne répondez pas. Ça rime avec quoi? Vous allez recevoir au... Mais on ne reçoit pas au centuple comme ça. Ça rime avec... Qui veut recevoir au centuple? Oh, oh, pourquoi l'enthousiasme a baissé? Dieu ne nous a pas promis de recevoir au dixième. Ni au 20e, centuple. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent s'arrêter là où Dieu n'a pas dit. Dieu veut qu'on puisse recevoir. Pourquoi les gens ne peuvent pas recevoir au centuple? Parce qu'ils refusent. Le centuple vient avec persécution. Qui comprend? Dieu ne t'a pas demandé d'arrêter au niveau de 99. Non, 100. 100%. Mais les 100% ne viennent pas comme ça. Dis à ton voisin, les 100% t'es destiné. Mais avec. Avec quoi? Donc, alors pour finir, pour clôturer, vous allez prendre le CD de vendredi dernier. Je ne vais pas aller en profondeur. Pour finir, clôturer cette partie, tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne sans persécution. Si tu refuses la persécution, tu refuses le centuple de Dieu. Tu vivras une vie minimum, pas au maximum. Dieu veut que tu puisses aller au maximum, pas au minimum. Alors, si tu n'es pas au maximum de ce que Dieu veut, tu ne rentres pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tu es dans la volonté permissive. Dieu permet certaines choses, mais tu ne seras pas satisfait. Qui veut être satisfait complètement de sa vie avec Dieu? Il faut rentrer au centuple. Mais cela, le centuple ne vient pas comme ça. Vient, rime avec persécution. Ça colle avec persécution. Les persécutions t'amènent à la dimension du centuple. Donc, si tu ne veux pas la dimension du centuple, ok. Donc, tu n'es pas concerné. Mais si tu veux aller au centuple de Dieu, il faut que tu sois connecté. Il faut que tu t'attendes à la persécution. Parce que ça fait partie de ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ. Passons, serrons. Serrant. Donc, serrant. Ça, la persécution t'attend. Plus tu avances dans ta vie, tu passes des étapes. On a vu les étapes. Il faut passer les étapes. La persécution ne peut pas venir avant que la patience soit développée. Il y a différence entre persécution et épreuve. Si tu échoues aux épreuves, tu ne peux pas arriver à la persécution. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de personnes ne sont pas persécutées. Parce qu'ils n'ont pas encore reçu leurs épreuves. Parce que Dieu ne peut pas t'amener à être persécuté si tu n'as pas développé la patience. Parce qu'il sait que tu ne pourras pas. Regardez ce que la Bible dit pour clôturer ça. Regardez ce que la Bible dit. Dans... Seigneur, aide-moi à trouver ces versets. Ah, 1 Corinthiens 10, verset 13. Quand les persécutions viennent, elles ne viennent pas pour te détruire, elles viennent dans le but de pouvoir t'amener dans la dimension où Dieu veut que. Parce que la dimension de Dieu est la dimension du centuple. Ok, verset 13, il dit quoi? Aucune attention ne vous est survenue qui n'ait été. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens afin que vous puissiez là. Donc Dieu a préparé les moyens, Dieu a préparé la dimension. Donc chaque dimension de ta vie est déjà préparée. On a lu ça dans Éphésiens. Afin que nous puissions emprunter le chemin, pour que nous puissions y arriver. Quand les persécutions arrivent, sache que tu vas t'en sortir. Parce que Dieu a déjà préparé un moyen. Il faut faire quoi? Il faut se tourner. Donc on a montré l'antidote là. La persécution, donc, achetez les CD de vendredi, vous allez avoir la réponse, l'antidote de la persécution. Donc, quand la persécution vient, sache qu'il y a, toujours un moyen de s'en sortir. Et ce moyen a été préparé par qui? Par Dieu. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de quatre dimensions de la foi. Maintenant, la seule façon pour toi de pouvoir s'en sortir, il faut que tu puisses rentrer dans la dimension de la foi. Or, la foi a plusieurs dimensions. La fois dernière, j'avais montré comment la foi grandit, la croissance de la foi. La foi les gens ont peu de foi, comme un grain de sénévé. On dit, j'ai peu de foi. Donc, ce qui veut dire quoi? La dimension, la première dimension de la foi ou la première croissance de la foi devient peu. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la foi, c'est un don que Dieu nous donne. On ne fait pas d'effort pour recevoir Christ. C'est par la foi que nous le recevons. C'est un don gratuit qui nous est donné. Et après, on s'est rendu compte que Dieu dépose en moi. Et la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 13, la dernière partie dit, Dieu a départi en nous une mesure de foi. Une mesure de foi maintenant doit être développée. Et plus loin, nous avons vu, il y a peu de foi, donc petite, une dimension petite. Quand elle est petite, il faut qu'elle puisse grandir. Et quand elle grandit, elle devient une foi plus grande. Et après, pour finir, elle devient une foi fortifiée. J'en ai parlé, vous allez demander les CD. Donc, vous arrivez jusqu'à la cinquième croissance de la foi qui devient une foi forte, une foi fortifiée. Celle qui est parlée dans le livre de Romains chapitre 4. Verset 10, c'est bien ça? Romains 4, verset 10, on dit là, non, pas 10, ça doit être 17 ou 22. Là, il dit, il fut fortifié par la foi. Abraham fut fortifié par la foi. Donc, il est devenu fort par la foi. La foi vous donne une force de pouvoir continuer et pouvoir atteindre la dimension que Dieu veut que vous puissiez avoir. Maintenant, quand vous arrivez dans le livre d'Éphésiens, Paul explique, il dit, Dieu veut que nous puissions connaître Christ dans toutes les dimensions. Sa longueur, sa hauteur, sa largeur et sa profondeur. Donc, il y a quatre dimensions. Il y a maintenant quatre dimensions de la révélation. Écoutez bien. Il y a quatre dimensions de la révélation de la foi. Si tu ne reçois pas les quatre dimensions de la révélation de la foi dans ta vie, tu ne peux pas atteindre ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Dieu vient dans ta vie, quand tu l'acceptes, la première chose, il te montre son plan. Un exemple. Quand des cyclistes veulent parcourir, faire une course, la première chose, on leur montre le parcours. On leur dit, voilà la course que vous allez courir. Avec leur staff, leur équipe, ils voient ou ils essaient de voir le parcours par lequel ils vont passer. Ils voient ça sur un parchemin ou sur, je ne sais pas, sur un plan. Mais le problème, ce n'est pas de voir. Il faut aller sur place pour voir quels sont les chemins par lesquels ils vont parcourir pour qu'ils puissent adopter une tactique, qu'ils puissent adopter une méthode, qu'ils puissent adopter un schéma pour atteindre la dimension. Donc, chaque cycliste ou chaque coureur sait que quand je vais arriver dans cette dimension, je vais prendre ce couloir-là, il faut que je puisse courir de cette façon ou je puisse pédaler de cette façon. Parce que si je n'utilise pas cette technique sur la montagne, je ne peux pas y accéder. Je prends un exemple. Nous avons des cyclistes ici. On m'a appris que le Colombien qui gagne souvent, qui a perdu cette année, c'est qui? Peña, c'est Flaubert Peña. On m'a appris que ce n'est pas un gars qui aime les plateaux, mais c'est un grimpeur. Mais malheureusement, il s'est fait apprendre. Pourquoi? Parce qu'au moment où il devait grimper, il n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé la bonne technique qu'il devait utiliser pour grimper. Dans la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin. Donc nous devons aller sur ce chemin pour trouver la vérité. Et au travers de cette vérité, nous trouvons la vie qui est la nôtre. Mais maintenant, pour aller dans ce chemin, la Bible dit le chemin que Dieu a tracé afin que nous puissions y emprunter. Mais on ne peut pas emprunter ce chemin si on n'a pas mis des stratégies, si on ne sait pas les étapes par lesquelles nous devons passer. Quand un cycliste veut courir une course, il connaît les étapes. Il sait que là, je vais aller de cette façon parce que c'est un plateau. À ce moment où de l'autre côté, où l'autre étape, c'est il faut grimper. Donc, il donne des stratégies, il donne des moyens pour atteindre l'objectif. Dans le christianisme ou dans la vie que nous avons avec le Seigneur, il faut que nous puissions vivre notre vie spirituelle selon les stratégies bibliques. Dieu a établi un plan. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre vie comme ça. Il faut que nous passions étape après étape. Mais maintenant, la Bible dit maintenant, la seule façon maintenant de pouvoir résister aux persécutions, c'est que la patience puisse être produite. Mais après qu'elle soit produite, maintenant, il faut que cette patience-là, qui est là, soit soutenue par ce qu'on appelle la foi. Et l'élément le plus profond, le plus glorieux, c'est la foi. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire que réellement Dieu, pas celui qui s'approche pour recevoir quelque chose de Dieu. Non, pour recevoir, tu dois tout d'abord croire que Dieu existe. Tu ne le vois pas, mais tu crois à son existence en dehors des choses visuelles. Dois croire que Dieu existe, pas seulement qu'il existe, mais il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Et la Bible dit, sans la foi, nous ne sommes pas agréables. Pour être agréé par Dieu, il faut avoir la foi. Mais qu'est-ce qu'est la foi? C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'est la foi? On a donné toute définition de la foi, mais on n'a pas essayé d'expliquer la foi. Comme je dis, il y a quatre dimensions de la foi. La première dimension de la foi, si j'ai une bonne mémoire, vous allez le trouver dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8. La Bible dit, la dernière partie du verset 8, la Bible nous dit que la foi est comme un don gratuit. don gratuit. Qu'est-ce qu'un don? Un don, c'est quelque chose que quelqu'un t'a donné, que tu possèdes sans pour autant avoir fait un effort. C'est un présent qui t'est donné sans que toi tu interviennes, sans que toi tu fasses un effort. Donc quand nous acceptons le Seigneur, nous passons par la première dimension de la foi. La première dimension de la foi, c'est un don gratuit. Vous avez écrit Éphésiens 2, verset 8. Vous allez lire à la maison. Et quand vous sortez maintenant, quand maintenant la foi est départie en vous, la foi est départie en vous comme un grain de sénévé. C'est ce qu'on appelle quoi? Peu de foi. La mesure de foi qui est départie en vous, c'est comme un grain de sénévé. Vous devez maintenant développer cette mesure de foi qu'elle grandisse. Parce que si elle ne grandit pas, vous ne pouvez pas atteindre la dimension qui est la vôtre. Vous allez rester à la même dimension. Maintenant, quand vous sortez maintenant de la première dimension de la foi, il faut maintenant passer à une autre dimension de la foi où la foi maintenant n'est pas simplement un don gratuit, mais devient un don spirituel. Vous trouverez ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, si j'ai une bonne mémoire. Vous commencez au verset 1. Le verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, frère, je ne veux pas que vous puissiez être ignorants ou vous soyez dans l'ignorance. Être dans l'ignorance veut dire quoi? C'est la méconnaissance de ce qui se passe. L'ignorance n'est pas une excuse, mais l'ignorance peut tuer. Ce n'est pas parce que tu ignores qu'il y a une excuse. Si tu ignores quelque chose, la mort ne t'épargne pas ou la destruction ne t'épargne pas. Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Il dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Parce que c'était quelque chose que les gens n'avaient aucune connaissance. Et au verset 7, il dit, à chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun de nous, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et dans le verset 9, je pense, on dit maintenant, à l'un est donnée la foi. Il ne s'agit pas de la foi comme don gratuit qui nous amène au salut, mais il s'agit de la foi maintenant comme don spirituel qui se manifeste dans une situation bien donnée. Un exemple, la foi comme don spirituel. Tu es dans une situation difficile. Tu as prié, tu as jeûné, tu as tout fait, mais la situation ne change pas. Mais un jour, tu te réveilles, tu lis un verset où tu étais en train de marcher. Au moment où tu marches, tu sens dans ton esprit comme si quelque chose te fait lever à une dimension où, au moment où tu es là, tu vois maintenant, avant même que tu parles, tu vois maintenant en toi que si je parle, la situation va changer. Qui comprend? Alors que tu as gêné, tu as prié, tu as tout fait, mais rien ne s'est changé. Mais ce jour-là, sans aucune intervention, sans la prière, tu as simplement pris ta Bible, tu as lu la Bible. Au moment où tu lis la Bible, les versets que tu lis rentrent au fond de toi. Et sans même penser à la circonstance, à la situation, au fond de toi, quelque chose se lève en toi. Tu dis, lève-toi et dis ceci. Tu le dis, tu as une colère sainte. Tu dis, hey, au moment où tu le dis directement, tu as la solution. C'est ça, les dons de la foi. Qui a compris la différence entre les dons gratuits et les dons spirituels de la foi? Ça vient spontanément sans qu'on la déclenche. Quand maintenant vous rentrez dans cette dimension, ça la décime, vous devez maintenant sortir de cette dimension pour rentrer dans une autre dimension qu'on appelle la foi comme loi. La foi comme loi, vous les trouvez dans Romains chapitre 3, verset 27. La dernière partie dit, par quelle loi? La loi des œuvres. Et la Bible dit non, par la loi de la foi. La foi, c'est une loi. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi, c'est une prescription ou, je l'écris où? C'est une règle. Selon le droit français, une loi, c'est une prescription ou un commandement ou des règles étatiques établies par un souverain ou un gouvernement ou une personne qui a la capacité ou la faculté de pouvoir légiférer. Et ça devient un fondement sur lequel nous pouvons régler ou régir nos vies. Alors, selon la Bible nous dit, la loi, c'est la volonté exprimée de Dieu. Maintenant, la foi doit devenir comme une loi. Pourquoi elle doit devenir comme une loi? Ça devient le fondement sur lequel tu vis. La Bible dit, mon juste vivra par quoi? Par là. Donc ça devient le fondement de ta vie. Si la loi ne devient pas comme si la foi ne devient pas comme une loi, ce n'est pas un style de vie pour toi. Qui comprend? Donc, toute ta vie doit être fondée sur la foi. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et quand vous sortez de cette dimension maintenant, vous rentrez dans une dimension qui est la dernière, qui fait que quelle que soit la situation dans laquelle vous allez vous trouver, où vous allez vous retrouver, où vous allez y être, quelle que soit la situation, vous allez vous en sortir. Voilà pourquoi quand Abraham est arrivé à cette dimension, il pouvait facilement se lever sans dire à sa femme que je vais aller sacrifier Isaac. Qui comprend? Quand vous arrivez à cette dimension, la foi n'est pas seulement le fondement, ça devient une attitude. Ça devient une attitude. Donc, vous n'avez pas besoin d'un appui pour faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous n'avez pas besoin de recevoir de quelqu'un qui tue ou de recevoir d'une autre personne un mandat pour le faire. Vous savez que ce que vous êtes en train de faire vient de Dieu. Même si tout le monde ne croit pas dans cela, mais vous savez que Dieu vous a dit. Vous marchez sans regarder derrière. Même quand Isaac dit, où est l'agneau, vous dites, il pourvoira lui-même. Parce que c'est une attitude. Votre attitude n'est pas fonctionnée ou n'est pas influencée par les circonstances. Votre attitude est influencée par ce que vous voyez. Là maintenant, la foi devient quoi? La foi devient tangible. Ce qui veut dire quoi? Ce que vous dites, c'est ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous voyez que ce que vous croyez. Qui a compris? Vous voyez maintenant ce que vous dites. Ce que vous dites devient visible dans vos yeux. Même si vos yeux physiques ne le voient pas, mais vous le voyez. Vous faites une image de ce que vous dites. Qui a compris? Donc quand je dis quelque chose, je n'ai pas besoin de le voir physiquement, mais je me fais une image. Je ne vois pas ce que je vis, mais je vois ce que je dis parce que je me suis fait une image. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quand Abraham, on lui a dit, va sacrifier ton fils, il s'est fait une image de quoi? De voir Isaac être ressuscité. Il allait pour voir Isaac être ressuscité et non pour être offert. Quand Dieu te dit quelque chose, tu ne vois pas ce que tu vas faire, mais tu vois ce que tu vas faire après que ce que tu as fait. Qui n'a pas compris? La foi comme attitude, c'est ce qui veut dire quoi? Je n'ai pas besoin d'une altitude pour garder mon attitude. Vous n'avez pas compris, je change. La foi comme attitude. La Bible dit la foi comme attitude est comme un titre de propriété. Donc je vais acheter un terrain. Même si je n'ai pas vu le terrain, mais le fait que j'ai tous les documents et que le notaire m'a certifié qu'il y a un terrain dans un endroit, je crois que ce que le notaire m'a dit est vrai. Parce que je ne me base pas sur le terrain que je me vois, je me base sur le titre de propriété que j'ai. Le fait que j'ai le titre de propriété dans mes mains, je sais que je suis propriétaire d'une maison qui sera construite en métropole dans tel endroit. Je sais quand le moment arrivera, je vais rentrer en possession de la maison ou je vais jouir de la maison. Mais la possession de la maison, je l'ai par mon titre. Qui a compris ce que j'ai dit? Il y a beaucoup d'entre vous qui ont des maisons. Vous avez des maisons dont vous n'avez pas habité. Mais c'est parce que vous n'habitez pas, la maison n'est pas là à vous. La maison est à vous à cause du titre que vous avez. Le jour où vous perdez le titre, vous perdez la maison. Mais tant que vous avez le titre, vous avez toujours là. C'est à ce moment-là que la foi devient comme une attitude. Comment peut-elle devenir comme une attitude? Quand vous prenez le titre de propriété, vous le gardez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que le titre de propriété divin? On retourne dans la parole. Qui a compris? Waouh! Ça va changer votre vie. Waouh! C'est tellement bon ce matin. J'ai envie de parler même sans lire ma Bible. La Bible dit, ouvrez vos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 1, chapitre 11, pardon, verset 1. La Bible dit, or la foi est une. Non, attends, la Bible n'a pas dit la foi sera ou la foi est, a été, la foi est. La foi reste toujours au présent. La foi n'est pas dans le futur, la foi n'est pas dans le passé. La foi est dans le présent. Or, la foi est. La foi est quoi? Est une ferme quoi? Assurance ferme, pas faible. Donc, il faut que votre foi devienne forte pour qu'elle soit ferme. Ferme veut dire quoi? Inébranlable. Ferme veut dire quoi? Ça ne peut jamais changer. Qu'il y ait problème, qu'il n'y ait pas problème, vous savez que votre titre de propriété, vous avez. Même si les cyclones passent, même si votre maison est cassée à cause de votre titre de propriété, vous savez que à cause du titre de propriété, vous avez souscrit une assurance. Maman, qui a compris? Quand Igo passe, vous avez un titre de propriété. Mais quand vous avez un titre de propriété, il faut souscrire l'assurance de votre maison. Or, la foi est une ferme à mon Dieu. Quand vous achetez une voiture, vous n'avez pas besoin
d'avoir la garantie que l'assureur va couvrir. Il vous dit seulement payer. Quand vous payez, qu'est-ce qu'il vous donne? L'attestation. La foi, c'est une attestation que vous avez. Vous avez que quand le problème viendra, je vais utiliser l'attestation. Quand vous avez une attirance, dès qu'un accident vient, vous dites, j'ai une attestation. Ceux qui n'ont pas d'assurance pour leur maison, pour leur voiture, dès qu'il y a un incident, aïe, aïe. Ceux qui n'ont pas la foi comme titre de propriété, dès qu'il y a un problème, comment je vais faire? Mais quand vous savez que la foi est comme un titre de propriété, dès que le problème arrive, vous prenez le titre de propriété, vous dites, la maison m'appartient. Vous allez chez l'assureur, dites, fais jouer l'assurance et reconstruis ma maison. Waouh! La foi est une ferme assurance. Dans une assurance, on donne, José, on donne quoi? Une attestation que tu as été assuré. Maintenant, si j'ai un problème, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, mon gars, j'ai mon attestation. Si tu ne joues pas ton rôle, mon gars, je porte plainte. Parce que j'ai payé mon assurance. La foi, c'est comme vous avez payé votre assurance. Il suffit que vous ayez un accident, vous vous envoyez, vous faites tout ce qui la sirène vous a dit, vous envoyez. Et la sirène dit, j'envoie l'expert et on répare la voiture. Et quand vous avez la foi, dès qu'il y a un problème, vous faites ce que Dieu vous dit. Vous dites, Dieu, je suis assuré. Et Dieu dit, j'envoie les anges, ils vont régler les problèmes. Alléluia, alléluia, alléluia. La foi est une ferme assurance. Enlève ton doigt. La foi est une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. La foi ne voit pas. La foi espère. La foi est dans l'invisible. Ce que tu vois n'est plus la foi. Pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils veulent voir avant de croire. Il dit à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras. Voir vient après avoir cru. Si voir détermine ta condition de vivre, tu es out des promesses de Dieu et rien ne va s'accomplir. La foi, c'est comme un titre de propriété. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on est. Je n'ai pas besoin de voir quelque chose pour croire. J'ai simplement besoin d'avoir la foi. La foi est égale à la possession. Ok. Je vais essayer de voir un peu rapidement. Les chapitres, la possession du droit français, c'est la propriété. Et quand je vais essayer de voir ces chapitres, l'article 22-28 du code civil du droit français définit la possession comme ceci. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous détenons et que nous exerçons par nous-mêmes. La possession est la détention, je détiens. Quand je possède quelque chose, je détiens. Je détiens, j'ai dans ma main une preuve concrète. La foi, c'est une preuve concrète que ce que Dieu a dit. Regardez, lisez le verset 3. Lisez le verset 3. Le verset 3 dit quoi? Non, le verset 2. Pour l'avoir possédé quoi? Attends, pour avoir possédé quoi? Ils ont possédé quoi? Ils n'ont pas possédé ce qu'ils ont. Demandez. Ils n'ont pas possédé ce qu'ils espéraient avoir. Ils ont possédé quoi? Non. Pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? Pour avoir possédé quoi? Non. Oh. Pour avoir pour les participes possédés. Et coordonné avec quoi? Posséder et coordonner avec quoi? Et coordonner avec là? Parce que pour l'avoir possédé, il y a E, accent, et E. C'est posséder avec? Et coordonner avec quoi? Attendez. Mais pourquoi vous ne répondez pas? Vous avez peur ou quoi? Pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? Ils ont possédé quoi? Ils n'ont pas possédé la chose. Ils ont possédé la. Si tu n'as pas la foi comme possession, tu n'auras pas la chose. Si tu n'as pas le titre de propriété, tu n'auras pas. Beaucoup d'entre vous ont des terrains, mais vous n'êtes pas propriétaire. Ton père t'a déjà donné un terrain. Il t'a déjà fait visiter. Tu as déjà marché. Mais le terrain n'est pas encore ton terrain. Pourquoi? Tu n'as pas de titre de pro. Mais on t'a dit que c'est ton terrain. Dieu t'a dit
que la guérison t'appartient, mais la guérison n'est pas encore réelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore le titre de propriété. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Vous comprenez? On ne possède pas avant la chose. On possède tout d'abord la foi. La chose vient après la foi. La chose ne vient pas avant la foi. Nous, on veut posséder avant la chose et avoir la foi après. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. C'est pour l'avoir possédé. Ils ont tout d'abord possédé la foi. C'est la foi qui a fait qu'ils pouvaient revendiquer que ça, c'est à moi. C'est le titre de propriété que tu as qui peut te permettre de revendiquer que cette maison ou ce terrain m'appartient. Si tu n'as pas le titre de propriété, comment tu vas revendiquer que ce terrain t'appartient? Si quel droit tu te fondes? Parce que la foi doit devenir, c'est une loi. Et cette loi te pousse à avoir une attitude. Parce que quand tu sais que la loi, elle est écrite comme ça, mon attitude est déterminée par rapport à la loi. La loi me dit pour avoir un terrain, je dois avoir un titre de propriété. Si j'ai le titre de propriété, mon attitude change par rapport au terrain. Qui a compris? Donc, si mon attitude ne change pas parce que je ne me suis pas fondé, je n'ai aucun fondement sur lequel je me fonde. La foi ne peut pas toujours être un don gratuit. Si c'est un don gratuit, tu ne vas pas accéder là où Dieu veut. Il faut que tu sortes du don gratuit pour passer au don spirituel, qui passe maintenant du don spirituel au niveau de la loi. Tu sais que je dois fonder ma vie sur la loi. La loi qu'on appelle, la foi qu'on appelle fondement, qu'on appelle loi. Donc parce qu'à cause de cette loi maintenant, je peux avoir un titre de propriété qui devient une attitude. Mon attitude par rapport au terrain change parce que j'ai un titre de propriété qui est fondé sur la loi. Qui comprend? Qui comprend ce que j'ai dit? Donc je ne peux pas posséder les terrains avant que j'ai le titre de pro. Je ne peux pas posséder ce que Dieu m'a dit. Si je n'ai pas encore la foi. Voilà pourquoi il dit dans le verset 6. Lisez. Or, sans la foi, de lui être à, Dieu nous a agréé par rapport à quoi? Ok, un exemple. Donc, nous avons dit que la foi est comme un titre de propriété. Quand j'ai un titre de propriété, je peux aller et dire, voilà, cette maison ou ce terrain m'a, on m'agrée, on accepte dans les services concernés, les cadastres, je ne sais pas de quoi. Ils acceptent, au service d'impôt, ils acceptent. J'ai un titre D, on m'agrée. Les gens rentrent vers Dieu, disent, donne-moi ceci, où est ton titre de propriété? Mimi, donne-moi quand même. Parce que ça me dit, oui, je veux bien te donner, mais où est ton titre de pro? Waouh, qui comprend? Qui a compris? Il faut avoir un titre de propriété. Le titre de propriété, quoi? Je vais vous simplifier. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai écrit parce que c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire les français, des français, des français. Je vais vous dire les français, les français simples, là, pour faire comprendre. Le titre de propriété, c'est simple. C'est le verset approprié que vous recevez par rapport à la circonstance dans laquelle vous vous trouvez. Un exemple. Romains 10, verset 17. Je vais vous expliquer. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce que j'entends vient de quoi? De la parole de Christ. La foi vient de quoi? De ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de quoi? De la parole de... Donc si j'entends la parole, la foi aussi vient. Comprenez bien. C'est quand j'entends la parole que la foi vient. Vous comprenez ce que j'ai dit? La foi vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, la foi et la parole. La foi est. La foi vient de quoi? S'il n'y a pas parole, la foi n'est. Bon, qu'est-ce que la foi? La foi, c'est quoi? C'est là? Oui, c'est une attitude. Mais la foi vient de quoi? Avant qu'elle devienne une attitude. Vient de là. S'il n'y a pas parole, il n'y a pas quoi? Sans parole, sans foi. On va revenir là-dessus. Ok? Rapidement. Hébreux 1. La dernière phrase du verset 3. Hein? Mais oui, j'ai déjà fini avec Romains. Vous êtes en retard. J'ai dit, Romains 10, 17 dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est ce que Romains 10, 17 dit. Vous n'avez pas lu, mais je vous ai précédé. Je passe mes nœuds. Moi, j'ai ma Bible dans ma tête. Hébreux 1, verset 3. Lisons le verset 3. Toutes choses. Allez-y. Hébreux 3, verset 1, verset. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa. Et soutenant quoi? Dieu soutient toutes choses par quoi? Il soutient toutes choses et soutenu par quoi? Par la parole toute. Lisez Hébreux 3, verset 4. Il dit quoi? Il dit quoi? Chaque maison est par celui qui a. Par celui qui a conçu quoi? Toutes choses. Et allez-y. Et qui a conçu toutes choses, c'est qui? Il a conçu toutes choses. Et tout ce qu'il a construit est soutenu par quoi? La foi vient de quoi? Donc toutes choses viennent de quoi? Donc toutes choses viennent de quoi? De là. Et la seule façon pour recevoir tout ce qui vient de la parole, c'est quoi? C'est là. Sans la foi, tu n'y es jamais à. Donc, le titre de propriété que nous devons posséder s'appelle là. Mais qu'est-ce que la foi? Une attitude, une quoi quoi? Une loi. Encore quoi? Un don gratuit, un don spirituel. Mais qui doit maintenant devenir ce qu'on appelle un titre de. Comment la foi devient titre de propriété? Quand je reçois la parole. Je prends un exemple. Okay? Quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin. Le médecin, il se fonde sur ses études qui sont soutenues par le droit, qui lui donne droit à pouvoir te prescrire des ordonnances. Le médecin ne se fonde pas sur ce que les chimistes et les biologistes ont fait comme médicament. Il se fonde sur ses études. Il ne connaît pas la composition des médicaments. Mais il sait que par rapport à ses études, tel symptôme répond à tel remède. Le médecin n'a pas fait des études pour faire des médicaments, mais il a fait des études pour diagnostiquer et faire sortir la situation. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous prescrit. La prescription, c'est le titre qui vous permet d'avoir accès aux médicaments qui vous soulagent.